écoutez On lit pour vous.
Traduction en case. Une chronique de Jean-Dominique Leduc parue le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires. Pour certains, traduire, c'est trahir. Pour d'autres, c'est l'occasion inespérée de découvrir des œuvres autrement hors de portée. Le singulier exercice, qui plus est pour un médium alliant l'image au texte, permet de dévoiler des récits dignes d'intérêt issus des quatre coins du globe. Portugal. L'image fut l'écriture première. Vint ensuite le texte. Il en va ainsi de l'histoire de la littérature, tout comme pour « La mangouste » Pau Pau, de l'auteur portugaise Joana Mosi. Tenant du pictogramme en guise d'approche graphique, qui n'est pas sans rappeler les bandes de Chris Ware, le bouleversant album se lit d'abord par le truchement des silences, des non-dits, des ellipses et de ce trait sans fioriture. À la suite du trépas de son amoureux, Julie traverse une période trouble, jetant son dévolu sur une supposée mangouste qui détruit le potager tant souhaité de feu son époux. Personne, de son frère sans emploi vivant avec elle, de sa mère et de ses amis incapables d'écoute, ni même du sport pourtant au centre de son quotidien, ne lui apporte réconfort. Seule cette mangouste matérialisant son mal-être s'érige en obsession, symbolisant l'indicible douleur du deuil. Comme le chantait si justement George Harrison sur l'album « All Things Must Pass » au cœur du livre « Sunrise doesn't last all morning, a cloudburst doesn't last all day, seems my love is up and has left you with no warning, it's not always gonna be this gray ». Ainsi sentons-nous poindre l'espoir à la sortie de cette poignante lecture comme d'une nuit sombre, qui nous porte d'ailleurs bien au-delà de la dernière page. Après les mystères de Hobtown et sombre bagarreur, le scénariste Alexandre Fontaine-Rousseau signe ici une traduction qui tient de l'orfèvrerie tant elle est délicate. Chaque mot y est soigneusement choisi. Se collant comme toujours au matériel source, Fontaine-Rousseau nous fait vite oublier le travail acharné qui se cache derrière ce pareil accomplissement. Canada. Publié chez l'éditeur montréalais Drawn and Quarterly en 2022 sous le titre Our Little Secret, l'album Notre Petit Secret d'Emily Carrington, La Pastèque, est un véritable morceau de bravoure. Bien plus que le troublant récit de son viol à l'adolescence, c'est celui d'une vie à jamais gâchée, jusqu'au moment où, se saisissant de crayons et de papier plusieurs décennies plus tard, elle fait œuvre utile en racontant son histoire. Frôlant parfois l'insoutenable, cet album éducatif énonce les différentes étapes du pédopiégeage, les complexités du système judiciaire et les ressources disponibles. D'une redoutable justesse, la traduction de Daphné B. agit en parfaite symbiose avec ce récit où chaque mot, porteur d'une déconcertante vérité, est sous-pesé. États-Unis. Évoluant dans l'univers du comics américain, le tandem Brubaker-Phillips produit les meilleurs polars du 9e art des dernières années. Après leur série culte Criminal, aux ramifications tentaculaires rappelant les romans de George Pelicanos, voilà que les auteurs se lancent dans la production de Reckless, Delcourt, racontant les mésaventures d'un détective patenté surfeur et propriétaire d'un cinéma en ruine, série qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler les récits du grand maître Donald Westlake. Dosant savamment comédie, action et émotion, le quatrième opus est l'occasion pour eux d'explorer le personnage d'Anna, la jeune assistante punk contrainte d'accepter une périlleuse enquête en l'absence de Reckless. Malgré une traduction à la française qui, par moments, agace, l'album se dévore malgré tout d'un seul trait. Japon. Maître incontesté de l'horreur, le mangaka Junji Ito aura mis du temps à être traduit et exporté aux quatre coins de la francophonie. S'il profita de la première ondée de manga en traduction au tournant du millénaire, il faudra attendre plus de 20 ans avant qu'il ne puisse enfin être lu dans sa forme définitive. Que ce soit par le truchement de ses récits longs, Tommy, Frankenstein, ou courts, histoires courtes, les chefs-d'œuvre, vous êtes quitte pour surenchère de frissons. Son récent artbook, Mangetsu, composé d'une centaine d'époustouflantes et terrifiantes illustrations, d'une préface signée de l'artiste et d'un bref entretien, est une pure merveille, qui permettra tant aux aficionados de se sustenter entre deux lectures qu'aux néophytes de succomber à la puissance inégalée du Lovecraft nippon sur amphétamine. Allemagne. Conteur iconoclaste et roi incontesté de l'humour pince sans rire, l'artiste allemand Nicolas Mahler, Flaschko, l'art selon Madame Goldgruber, se joint au dramaturge tchèque Jaroslav Rudisch afin de raconter les hilarantes déambulations nocturnes de deux hommes des tavernes en mal de vivre et de bière. Oiseau de nuit, l'association. Philosophant d'un débit d'alcool à un autre, le tandem à la sortie à la Laurel and Hardy aborde les thèmes de l'amour impossible, de la solitude et de l'histoire qui vous colle au basket comme une ombre, façonnant ainsi le monde par le biais de leurs petites souffrances. L'économie, l'efficacité et le flegme du trait de Mahler cèdent le pas à l'humour, au non-dit, au savoureux malaise et à l'absurdité de la situation. Cette première collaboration est une réussite, du fait que le scénariste s'est collé à l'univers unique de l'illustrateur. On les aurait bien accompagnés jusqu'au bout de la nuit. C'était « Traduction en case », une chronique de Jean-Dominique Leduc parue le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires.
Artisans à l'œuvre, une formule touristique au service du bilinguisme canadien. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique. Le réseau Artisans à l'œuvre de la Colombie-Britannique et son entité légale, la Société du réseau Économusée de la Colombie-Britannique, SRECB, travaille sur une troisième phase d'expansion. La formule touristique plurilingue invite à la découverte de métiers ancrés dans des savoir-faire traditionnels. Elle regroupe ainsi des entreprises qui servent à la fois d'ateliers artisanal et de musées en employant une approche contemporaine présenté au sein du concept Économusée. Un circuit se dessine tranquillement dans les Kootenays, au plus grand bonheur des francophones. La directrice du service aux entreprises et du développement stratégique et des affaires de la Société de développement économique, SDE, Fatima Zadra, veille sur la SRECB dans la province. Le projet, créé en 2012, a débuté sur l'île de Vancouver grâce à un bailleur de fonds provincial, le Island Coastal Economic Trust, pas au niveau fédéral comme c'est le cas actuellement. Au départ, il y avait une volonté que ce soit géré par la province et qu'il y ait un savoir-faire qui soit développé en Colombie-Britannique pour produire les économusées, dit-elle, en précisant que la pertinence de s'appuyer sur la Société du réseau Économusée, SRE, est rapidement apparue évidente. La SRE est une organisation internationale sans but lucratif créée en 1992 et basée dans la ville de Québec. Au Canada, elle compte des membres en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Québec et en Atlantique. Elle est aussi la propriétaire et promotrice du concept Économusée. Après l'île de Vancouver, la SDE a concentré ses efforts sur Nelson. L'économusée de la chapelière Lily and Coho a ouvert le bal. En 2019, le premier membre de la région des Kootenays s'est joint à l'organisation. Deux autres membres ont ensuite été intégrés en 2022, puis un quatrième s'est ajouté en 2023. Ces quatre entreprises sont activement engagées dans la réalisation d'événements, la promotion et les demandes de subventions pour poursuivre le financement de la croissance. Soutien, la propriétaire de Lily and Coho et trésorière de la SRECB, Liz Coho, consciente que l'avenir est entre les mains des artisans du présent. La directrice des services aux membres, des communications et du marketing de la SRE, Cindy Vaillancourt, indique une volonté de mettre en valeur la région des Kootenays, riche en artisans. Nous travaillons en grappe afin de créer des circuits touristiques et ainsi augmenter la visibilité du réseau artisans à l'œuvre à travers la Colombie-Britannique. Une offre pédagogique bilingue. L'artisan peut être anglophone ou francophone. Ce n'est pas lui qui porte le bilinguisme. Finalement, le bilinguisme est porté par la signalisation construite de manière à ce que, pédagogiquement, on partage le savoir-faire de l'artisan. Ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas un économusée qui ressemble à un autre, explique Fatima Zadra, notant l'engagement sincère des membres envers le bilinguisme. L'artisane Liz Coho met en lumière la relation établie avec la communauté francophone locale. L'Association des francophones des Kootenays Ouest, AFKO, est une organisation solide qui nous a soutenus en nous incluant dans son infolettre et en étant présente lors de nos événements. Nelson compte également une école de langue française avec laquelle nous voulons collaborer. Cindy Vaillancourt fait valoir que son organisation internationale crée des contenus d'interprétation bilingue pour tous ses membres. En règle générale au Canada, c'est en français et en anglais, mais il arrive aussi de transmettre de l'information aux visiteurs dans une langue autochtone, précise-t-elle. Pour plus d'informations, artisansaloeuvre.com Artisan à l'œuvre. C'était Artisan à l'œuvre, une formule touristique au service du bilinguisme canadien. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique.
Les littératures de l'imaginaire nous aident-elles à mieux comprendre le monde? Une chronique de Mathieu Lauzon-Dixot, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Vous savez, quand on parle des littératures de l'imaginaire dans leur ensemble, ça englobe un très large corpus littéraire. Mais vraiment très large. Même une librairie spécialisée ne pourrait pas tout le tenir en stock, et j'en sais quelque chose. Des genres comme la science-fiction et la fantasy en sont aujourd'hui les cœurs palpitants, et c'est donc souvent d'elles qu'il est question quand on sort l'expression « littérature de l'imaginaire ». Sauf que, pour être un peu plus exact, il faut aussi y mettre l'épopée de Gilgamesh, comme les bandes dessinées d'Astérix et sa potion magique, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, au même titre que des dystopies comme La Servante écarlate de Margaret Atwood ou 1984 de George Orwell, des textes fondateurs de la science-fiction et de la fantasy comme Frankenstein de Mary Shelley ou Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, ou encore du fantastique percutant et plus récent comme Alice de Patrick Senecal. Ajoutez-y les contes de fées, tout Jules Verne, certains des plus beaux romans d'Anne Hébert, les fous de Bassan, les enfants du sabbat ou Héloïse, Macbeth ou Hamlet de Shakespeare? Bah oui, avec tous leurs fantômes. Des séries à succès comme Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard, Amos d'Aragon de Brian Perrault ou les multiples cycles de Brandon Sanderson et bon nombre d'œuvres d'auteurs de La Trempe de Gabriel Garcia Marquez, Toni Morrison ou Haruki Murakami. Bref, vous voyez où je veux en venir? C'est un corpus immensément large et disparate qui couvre de larges horizons, imaginaires, de la littérature et qui nous propulse a priori loin du monde qu'on croit connaître, alors qu'en réalité, ces textes nous ramènent toujours à poser un regard neuf sur ce qui nous entoure et à nous montrer que l'impossible n'est qu'une donnée subjective dans le cadre référentiel du monde que nous nous sommes bâtis au gré de nos expériences et de nos perceptions. Et voilà donc l'une des grandes forces des genres de l'imaginaire, que ce soit dans le réalisme magique d'Ayavi Lake et de son Marabout, où par extension est le théâtre des rencontres les plus improbables, ou bien dans la romance planétaire queer que Sylvie Bérard entretient dans son roman « Terre des autres », qui nous fait vivre la porosité des frontières entre les genres et les espèces, les beaux mensonges qu'on y raconte. Et oui, des mensonges, car après tout, toute fiction en est un mensonge habilement déguisé. Et tout lecteur signe un contrat tacite où il dit à l'auteur « Je sais que tu me mens, mais ça fait du bien » peuvent nous amener à appréhender notre monde autrement à travers toutes ces possibles déclinaisons. C'est cela qui me ramène toujours à la lecture d'œuvres issues des genres de l'imaginaire. Le sentiment que je serai toujours surpris, souvent ébranlé et même inspiré par le contact que ces livres me permettent d'entretenir avec d'autres mondes possibles qui nous font comprendre que les pires inégalités d'une autre sont loin d'être inéluctables. Ils sont peuplés d'individus qui bousculent les normes, les traditions. Il y existe des moyens de corriger les systèmes oppressifs les plus sournois qu'on imagine relever de l'ordre naturel des choses par habitude. Notamment, dans la science-fiction actuelle, on ne fait pas que pointer les torts du racisme systémique, du capitalisme effréné, de la censure totalitaire et de bien d'autres mots, on les dépasse. Et grâce à ça, comme lecteur, on comprend que notre monde n'a pas à être aussi triste que ce qu'il est parfois. Il y a même tout un courant de la science-fiction contemporaine, le Hope Punk, qui propose des récits propulsés par l'espoir qu'on pourra réussir à rebâtir un monde meilleur une fois que le nôtre en aura fini de sombrer. Les deux volumes « D'histoire de moines et de robots » de l'américaine Becky Chambers, composés d'un psaume pour les recyclés sauvages et d'une prière pour les cimes timides, font partie des textes lumineux qui m'ont fait le plus de bien depuis le début de la pandémie, grâce à leur douceur jamais niaise. La lente quête pour le chant des grillons d'une moine thérapeute en pleine crise existentielle et d'un robot curieux de tout connaître à propos de la société humaine m'a fait comprendre ceci du monde. Il ne cessera pas de tourner si moi, je réussis à ralentir et à m'arrêter, aux grandes dames du néolibéralisme surproductif. Et j'ajouterai, en mettant ma casquette de libraire, que dans la même veine, il faut aussi lire « Le livre ardent » de l'autrice québécoise Andrea Renaud-Simard, une utopie ambiguë où on assiste peu à peu à la réconciliation impossible entre deux peuples ou encore le récent « Premier jour de paix » d'une nouvelle voix de l'imaginaire en France, Elisa Béram, qui nous rappelle, comme Martin Luther King le clamait déjà au temps de la guerre du Vietnam, que, citation, « la paix n'est pas une destination, mais des conditions grâce auxquelles il est possible de transformer les conflits de manière constructive. » Fin de citation. Alors, vous voyez, à travers ces lectures, il y a une infinité d'autres mondes à comprendre pour mieux trouver du sens à celui qui est le nôtre. Ce n'est pas sorcier, il faut lire de l'imaginaire pour mieux en apprécier les nuances possibles. Et sur ce, je vais m'imaginer le monde dans lequel on vivrait si on avait tous un roman de science-fiction entre les mains. C'était « Les littératures de l'imaginaire nous aident-elles à mieux comprendre le monde ?» une chronique de Mathieu Lauzon-Dixau, parue le 5 février 2024 dans le magazine « Les libraires ».
Poésie autochtone, nature et identité, un texte de Marianne Duguay, paru le 11 juin 2024 dans les libraires. Je présenterai un feu immense. Je brûlerai les écoles-résidences, les papiers-lois. Et d'un seul coup de vent, chasserai d'une main toutes les pipelines. Les caribous viendront courir avec les bisons. Les chevaux, les cerfs. Il y aura un grand frémissement. Les caribous, les bisons, les chevaux, les cerfs viendront avec la terre noyer les oléoducs. Ce poème de Natacha Canapé-Fontaine dans « Manifeste assis, mémoire d'encrier » résume bien le sentiment des Autochtones face au bouleversement apporté par l'homme blanc à leur mode de vie. En effet, ces peuples vivaient en harmonie avec la nature et leur environnement, ainsi transformé, a eu un impact sur ce qu'ils étaient en tant que peuple. Dans la poésie autochtone, des autrices et auteurs tels que Natacha Canapé-Fontaine, citée ci-dessus, Rita Mestocochaux, Jean Sioui et Joséphine Bacon illustrent souvent ce déracinement, cette nécessité de se reconnecter à l'essentiel, à la nature, au territoire. Leur discours, centré sur la liberté offerte par le mode de vie des Premières Nations, se lie parfois à un clan animal, ours, caribou, ou à des éléments de la nature en leur donnant un nom de membre de la famille comme grand-père, grand-mère et mère. Le nomadisme, synonyme de liberté pour plusieurs peuples, est dépeint avec nostalgie dans ces vers. Innu de Pessamit, Natacha Canapé-Fontaine représente son peuple par l'eau sous différentes formes. Déracinée à Montréal, la poétesse écrit dans son recueil « Manifeste assis » « Je reviendrai, peuple d'eau ». Ce thème est aussi très présent dans « Nanimi soit, il tonnerre, mémoire d'encrier » où elle mentionne « Nous sommes d'eau ». De plus, elle se fait « femme aux anguilles » et parle de ses « sœurs des lamproies » et « ses mères les tortues », faisant des êtres marins des membres de sa famille. Lorsqu'elle parle d'elle-même dans « Manifeste assis », la poétesse se décrit telle une reine guerrière nomade qui désire détruire ce qui empêche les Innus de vivre librement, comme les portes des plans du Nord. Dans ce même ouvrage, son corps appartient même à la assis terre, avec ses yeux de terre et son mâle au ventre de la terre. Pour Canapé-Fontaine, la nature et le nomadisme font partie de la seule vie qui permet l'équilibre de son peuple. Première poétesse Innu à avoir publié un recueil, Rita Mestocochaux s'affilie à Papakassikou, l'esprit du caribou, dans Atikou Utei, le cœur du caribou, mémoire d'encrier. Comme la langue Innu ne contient pas le mot liberté, le caribou représente le concept. Nuchimit, l'intérieur des terres, est présenté par Mestocochaux comme sa mère, indication de l'importance du territoire pour les Innus. En fait, cet espace est primordial pour la poétesse qui met l'accent sur la liberté qu'apporte le nomadisme si cher à son peuple. L'Innu considère que la sédentarité est handicapante et l'empêche de marcher. De la nature, Mestocochaux en ressent l'eau dans ses veines et décrit son cœur comme étant en branche de sapin. Ainsi, la terre et ses éléments font partie d'elle. Le poète de Wendake, Jean Sioui, se réclame du clan de l'ours dans « Des morceaux de temps, mémoire d'encrier » et illustre cette appartenance avec une image des plus sympathiques. « J'ai laissé un crayon sur une bûche. J'ai demandé aux ours de dessiner mon arbre généalogique. » dans son recueil, se voulant une invitation à un échange mutuel pour de meilleures relations entre les descendants des colons et les autochtones, Siwi appelle la lune grand-mère et le soleil grand-père, ce qui démontre la proximité de son peuple avec les éléments naturels. Dans cet opus, le Wendat mentionne faire partie d'un peuple nomade, mais il ne fait pas un grand éclat de toute la liberté perdue. Joséphine Bacon, poétesse Innu qui se passe de présentation, s'accorde avec Rita Mestokocho sur le rôle de guide de Papa Kassikou pour son peuple dans « Un thé dans la toundra », mémoire d'encrier, en disant « Papa Kassik court avec moi ». Dans ce recueil, Bacon décrit aussi son cheminement vers la toundra et mentionne son grand-père l'ours que la nuit endort. Ce pèlerinage est pour se rendre à Nutshimit, comme le faisait son peuple au temps du nomadisme, ce dont elle parle également dans Kaou Minouat, une fois de plus, mémoire d'encrier. Ce dernier livre décrit la vieillesse tout en exprimant le désir immense de retourner à l'ancien mode de vie des Innus. La nature est omniprésente dans ces titres de Bacon qui répètent la nécessité de toujours retourner aux racines autochtones. Dans son plus récent recueil, son souffle devient vent et ses larmes pleurent les rivières dans un poème sur le manque de compréhension des Blancs envers son peuple. La nature est dans l'ADN de Joséphine Bacon. Dans les recueils présentés ci-dessus, les Autochtones vivent en symbiose avec les éléments de la nature et déplorent le manque de respect face à leur mode de vie, tel que le nomadisme, qui offre la liberté. Les arbres, les animaux, les cours d'eau, la chasse font partie de ce qu'ils sont en tant que peuple. Tous sont indissociables. Seulement quelques œuvres de poétesses et poètes ont été présentées ici, mais plusieurs autres attendent de vous transmettre les cultures des Premières Nations et leurs sentiments face à la perte de leur territoire. C'était « Poésie autochtone, nature et identité », un texte de Marianne Duguay, paru le 11 juin 2024 dans Les Libraires.